Monsieur Karl Blague, bonjour.
Bonjour Armando.
Le G7 s'indigne de la situation sociopolitique centrafricaine délétère, selon vous. Comment ?
Je n'ai pas besoin de vous planter le décor. Regardez ce qui se passe depuis quelques semaines sur le territoire centrafricain. Je vais prendre trois préfectures. Le Bamengi, Bangoran, la Vakaga, l'Ouampende et je rajouterai une autre préfecture, le Ombomo. Ces préfectures sont sujettes à des théâtres d'opérations militaires. Au niveau de l'Ouampende, par rapport à la présence de la rébellion tchadienne contre le pouvoir de N'Djamena, l'armée nationale tchadienne s'est positionnée, même au-delà de la frontière, même sur le territoire centrafricain, notamment vers Paoua et autres, pour sécuriser leurs frontières par rapport à la présence de certains combattants de rébellion soutenus par le président de la République et Wagner. Pareil au niveau de la Vakaga. N'oublions pas aussi qu'au niveau du pays voisin, le Soudan, il y a une grave crise dont la République centrafricaine est tributaire. Il y a une affluence de réfugiés, civils et peut-être aussi des combattants qui viennent sur le territoire national. De l'autre côté, à Bambouti, à Mboki, à Obo, la désertion ou bien l'absence de nos forces de défense et de sécurité ont fait de sorte que la population locale s'est organisée en autodéfense, notamment la milice Azandenipigbe. Alors, rien que ce petit décor nous dit tout.
Dans l'Impende, vous voulez parler de cet affrontement entre les rebelles tchadiens et les militaires tchadiens sur le sol centrafricain, mais un officier tchadien a bien dit que l'opération a été menée conjointement avec les militaires centrafricains.
Oui, ça c'est officiel.
Mais donc, il n'y a pas à accuser le président de la République.
Non, ça c'est au niveau du communiqué officiel, mais de manière officieuse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que le gouvernement centrafricain n'a pas joué franc jeu. Wagner, c'est-à-dire le mercenariat russe qui est en train de s'implanter, qui s'est même implanté en République centrafricaine et entre-temps qui était au Soudan, mais qui est un peu perturbé par la guerre au Soudan, qui fragilise actuellement Emeti, le général Emeti qui était le soutien de Wagner. Donc, Wagner risque de créer des troubles au niveau sous-régional. C'est extrêmement grave. Donc, si le chef de l'État était vraiment sérieux, il aurait pu, en tant que président en exercice de la CEMAC, convoquer en urgence une conférence des chefs d'État pour justement s'exprimer par rapport à la situation au Soudan.
Mais sur la question de la porosité des frontières centrafricano-tchadiennes, centrafricano-soudanaises, centrafricano-camerounaises, est-ce, selon vous, un autre problème supplémentaire ?
Mais bien sûr, nous allons juxtaposer les problèmes. Regardez au niveau de la frontière avec Beloko, Garamboulaye. Vous vous êtes souvenu, entre-temps, le mouvement 3R était même allé jusqu'au niveau du poste des douanes de Beloko et a frappé. Et nous avons tous vu les dégâts. Alors, vous me parlez d'effectifs, vous me parlez de surveillance de nos frontières. Non. Manque d'effectifs, manque de moyens, manque de détermination. Et c'est la même chose au niveau d'Amdafok. Au niveau de Tissi même, entre-temps, il y avait ce qu'on appelait la force tripartite. Alors, qu'est-ce qu'elle en est ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette force tripartite ? Mais au niveau de Bambouti et autres, est-ce que nous avons des forces de défense et de sécurité là-bas ? Je ne pense pas.
Messieurs, en sus de ce que vous avez dit, pénurie sans précédent du carburant engendre davantage la spéculation et surtout la hausse des prix des denrées alimentaires. Et selon vous, vous observez avec regret la gestion de cette crise par le gouvernement. Que voulez-vous dire par là ?
Bien sûr. Vous savez, la crise des hydrocarbures n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a cela quelques mois, il y a eu inflation. D'abord, rareté. À un moment, les camions-citernes. Et pourtant, on parle de la campagne route, c'est-à-dire les camions-citernes qui devaient venir du Cameroun pour ravitailler
via Boire, Beloko et bien d'autres.
Voilà, pour ravitailler les stations au niveau de Bangui. Il y a eu rupture, mais on s'est rendu compte que parallèlement, il y avait des fûts de carburant stocké dans certains quartiers. Vous vous souvenez très bien qu'il y a eu des incendies à un moment à cause de l'entreposage, du stockage de ces fûts dans certains quartiers. Certaines investigations nous ont dit que non, apparemment le ministre de l'énergie était impliqué dans le trafic illicite de carburant parce que lui-même il était actionnaire dedans.
Vous dites apparemment ?
Oui, mais nous avons, je pense que certains de vos journalistes, certaines stations ont fait des reportages sur cette situation. Et même les vendeurs à la sauvette, ceux qui sont au bord de la route et même les taximans et autres qui vont dans les stations légales se sont rendus compte que le prix à la pompe avait augmenté, mais ils pouvaient facilement trouver du carburant à un prix raisonnable au bord de la route ou dans certains quartiers ou même certains même au bord du fleuve. Carburant venant de Zango, de l'autre côté du Congo démocratique. Alors, la question que je me pose en tant que citoyen centrafricain, à quel jeu joue le ministre de l'énergie ? En plus de ça, il signe un arrêté qui réglemente, entre guillemets, c'est-à-dire le trafic illicite du carburant. Et jusqu'à actuellement, vous savez à combien est vendu le litre d'essence ?
1500.
Non, mais ça varie. Ce prix n'est pas stable. Il y a une fluctuation.
Il y a le mouvement, il y a le yo-yo des prix sur le marché.
Bien sûr, mais c'est dû à quoi ? Pourquoi c'est pas stable ?
Oui, mais est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, cette crise, elle est internationale, pour ne pas dire mondiale, de carburant ?
Bien sûr, mais certains États arrivent à juguler cette crise.
Mais la Centrafrique, la République centrafricaine, j'allais dire, ne produit même pas aujourd'hui du carburant.
Nous avons jamais produit du carburant. Nous sommes importateurs de carburant.
Donc ça veut dire que la situation est dure ?
Non, c'est parce que la politique justement de gestion de cette crise n'est pas la bonne politique.
L'insécurité persistante dans le nord-est, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, alors que les élections locales sont prévues au mois de juillet prochain, pensez-vous que cela se tiendra ?
Armando, paix à son âme, je parlerai du défunt maître Zarambo, qui avait dit à l'époque que la République centrafricaine était le pays de tous les paradoxes. Vous pensez qu'avec ce genre de situation, des élections locales peuvent se tenir ? Non, je ne pense pas. Et en plus de ça, au niveau de l'autorité nationale des élections, l'ANE, il faudrait qu'il y ait plus de transparence. Est-ce qu'ils ont révisé la liste électorale, le fichier électoral ? Est-ce qu'ils ont associé justement les forces vives de la nation, notamment l'opposition démocratique ? Il y a un certain nombre de préalables qu'il faudrait déjà d'abord régler avant de prétendre fixer une date des élections locales pour ne pas qu'il y ait des contestations.
Vous êtes pessimiste ?
Très pessimiste parce que les conditions ne sont pas réunies. Les élections locales ne sont pas opportunes compte tenu du contexte global de la République centrafricaine.
Contexte financier, vous voulez dire ?
Financier, sécuritaire, social, politique. Au niveau politique, il n'y a pas un modus vivendi. Je pense que tout État a besoin d'une sérénité pour amorcer un processus électoral. Et cela dépend justement du président de la République.
Mais lorsque vous voyez aujourd'hui la prise de position du BRDC, du Bloc Républicain pour la défense de la Constitution, par rapport à ces élections, est-ce que l'on se croit à une manière de boycotter le processus, selon
non,
vous ?
Non. C'est une réaction légitime. Tant qu'il n'y aura pas de transparence justement dans les structures qui sont censées gérer le processus électoral. Mais c'est normal que l'opposition démocratique se pose des questions.
Mais ce n'est pas la première fois. Là, on a déjà organisé les élections globales de 2020.
Et alors, il y a eu combien de contentieux qui ont été vidés ?
Il y a eu combien de membres de l'opposition élus, selon vous, comme députés ?
Mais vous avez les statistiques.
Donc ça veut dire qu'il y a un peu de transparence, il faut aller aux élections.
Nous parlons des élections locales et on dit souvent « bien dire fait rire, bien faire fait taire ». Les faits sont têtus. Je pense qu'il faudrait que l'ANE fasse preuve de transparence.
Monsieur Blaguier, le G16, votre organisation, et vous êtes coordinateur national, totalise un an d'existence. Son objectif est de lutter contre le changement de la Constitution. Un an passé, quel bilan peut-on dégager de son action ?
Une satisfaction. Les deux actions très importantes que le G16 a menées. D'abord, la première action, c'était contre la crypto-monnaie et la deuxième, contre la mise en place de ces comités de rédaction pour une nouvelle Constitution. La Cour constitutionnelle nous a donné raison. Effectivement, ça a créé justement une déstabilisation interne à la Cour constitutionnelle, d'où Madame Danière Darlan, la présidente légitime de la Cour constitutionnelle, a été évincée.
Selon vous ?
Bien sûr, tout le monde connaît très bien le processus de son éviction. C'était illégal. Le pouvoir en place a changé de stratégie pour persister. À défaut de crypto-monnaie, on parle de tokenisation. Ça, c'est un de deux. Avec les moyens de l'État, ils ont envoyé certains mouvements, soi-disant associations de soutien au régime dans l'arrière-pays, tout juste pour récolter des signatures fictives, comme quoi le peuple centrafricain veut aller à la révision de la Constitution. Non, le G7 sera toujours vigilant.
Monsieur Karl Blaguier, merci.
Merci Armando.